Dans le séminaire, vous allez avoir maintenant Fabien Cassé du CEA qui va nous dire tout ce qu'il fait actuellement sur les oscillations quasi-périodiques
et les binaires X.
Tout d'abord, avant de commencer ce séminaire, je voudrais remercier Françoise pour son invitation à venir donner ce séminaire. C'est un petit peu un retour aux sources, puisque donc, je partiens au laboratoire Astroparticules et Cosmologie APC, qui est donc voisin, on est sur le campus des Grands Moulins. Et l'APC, en fait, est l'évolution du laboratoire de physique corpusculaire et de cosmologie du Collège de France, donc qui a fusionné avec d'autres entités. Qui a fusionné avec d'autres entités pour créer ce laboratoire un petit peu à l'interface entre astrophysique, physique des particules, etc. Donc dans cet exposé, donc ça se veut un complément du cours que vient de vous faire Françoise. En fait, on va parler d'interaction entre trous noirs et étoiles, mais cette fois-ci sur un rapport de masse un peu plus égalitaire, où le trou noir et les étoiles vont avoir des masses, on va dire, du même ordre de grandeur. Et donc, ce sont des systèmes qu'on appelle des systèmes binaires X à trou noir. Donc, je vais me cantonner à cet aspect-là. Parmi ceux-là, donc, je vais faire une brève revue observationnelle, vous présenter un petit peu comment est-ce que ce qu'on en connaît de ces systèmes, et puis insister sur un point que Françoise a déjà évoqué, la présence en fait d'oscillations quasi-périodiques, donc des QPO, c'est l'acronyme en anglais, qu'on observe en fait dans les écoulements près des trous noirs stellaires, mais également, comme vous l'avez vu, près des trous noirs supermassifs. Donc, après la présentation de leurs caractéristiques, je vais vous présenter un petit peu, en gros, les deux modèles qui sont un peu en vogue pour expliquer la présence de ces QPO et comment est-ce qu'ils peuvent nous renseigner sur la façon dont les trous noirs accrètent la matière. Et puis, bon, on dégagera quelques perspectives pour le futur. Alors, avant de commencer, le titre de l'exposé, c'était les événements d'accrétion violents autour des trous noirs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accrétion violente? En fait, c'est l'accrétion de matière sous un champ de gravité un peu extrême. Donc, l'objet évidemment emblématique de la relativité, c'est le trou noir. C'est l'objet qui génère la gravité à son contact la plus forte. Donc, au-delà des TDE, il y a donc des interactions qui existent entre trous noirs et étoiles et donc qui forment des systèmes liés, dynamiquement liés gravitationnellement, où vous avez donc un trou noir qui est en couple avec une étoile compagnon et vous pouvez avoir un échange de matière entre l'étoile ici et le trou noir, alors en gros par deux mécanismes suivant la configuration du système stellaire. Vous avez soit un débordement du lobe de Roche, ici, donc en gros, le point de Lagrange entre les deux systèmes est proche et aspire une partie de la couronne stellaire directement pour former un disque d'accrétion. Ou si vous avez une étoile qui émet un vent puissant, de type par exemple Wolf-Rayet ou des étoiles géantes, eh bien ce vent peut être capturé de façon gravitationnelle par le trou noir et formera aussi un disque d'accrétion. Et dans les deux cas, le disque d'accrétion va émettre en X de façon assez intense. Mais bon, on reviendra un petit peu après pour voir pourquoi est-ce que cette émission X, elle est vraiment emblématique. Alors, un petit tour historique, les binaires X, donc à trous noirs, la première a été identifiée en 1972, c'est celle-ci que vous voyez en optique ici. Cygnus X1, donc en 1972. Donc c'était une source X qui apparaissait déjà depuis quelques années. Et puis, grâce à des observations obtenues en 1972 par Webster, Emerdin et puis Bolton, eh bien on s'est rendu compte que de deux choses. C'est qu'il y avait évidemment une étoile géante O qui émet son spectre usuel. Donc c'est pour ça qu'on peut l'identifier facilement et avoir sa masse. Mais on a comparé également, regardé la dispersion de vitesse du système et on a vu qu'il y avait une oscillation de la vitesse radiale de l'étoile compatible avec un couple stellaire donc en orbite l'un autour de l'autre. Et de ces mesures et de la présence d'une occultation dans l'émission X de Cygnus X1, on voit qu'un objet passe devant l'autre parce qu'à certains moments, vous avez une occultation du flux en rayon X. Et donc, de ces deux contraintes, on arrive à avoir une idée de la masse de l'objet compagnon de l'étoile O. En fait, c'est un objet dont la masse est supérieure. Donc à l'époque, la contrainte, c'était supérieure à 2 masses solaires, c'est même un petit peu plus. Et étant donné la configuration et la proximité des deux astres, il n'est pas possible que ce soit une étoile, déjà parce qu'on aurait vu son spectre, et puis deuxièmement parce qu'il n'y a pas la place. Donc c'est forcément un objet compact, et un objet compact dont la masse est supérieure à 2 à 3 masses solaires, eh bien c'est forcément un trou noir. Donc depuis Sinus X1, on a découvert pas mal de binaires X, on en a entre 20 et 30 actuellement, où on a identifié clairement que l'objet compact compagnon, c'était un trou noir. Donc, sur ce petit diagramme, en fait, c'est à l'échelle. Vous avez les différents systèmes qu'on a pu identifier qui abritent un trou noir avec un disque d'accrétion autour. Et pour vous donner un ordre d'idée de la taille de ces systèmes stellaires, ici, vous avez la distance entre le Soleil et Mercure. Donc, c'est assez étroit déjà. Et vous voyez qu'on arrive à caler. Donc, pour Sinus X1, vous avez la géante bleue qui est ici et le trou noir qui est à cette distance-là. Si ce n'était pas une étoile, bien évidemment, vous auriez les deux étoiles qui se chevauchent, et donc dynamiquement, c'est pas possible. Voilà, donc une morphologie un peu, on va dire, assez contrastée, avec des étoiles géantes, des étoiles naines, un petit peu de tout, ce qui permet en fait de créer des catégories de binaires X, soit suivant la masse du compagnon, grande masse, petite masse, etc. Alors on en a détecté entre 20 et 30 avec les moyens actuels. Mais bien évidemment, quand on regarde le nombre de trous noirs qu'on attend d'avoir dans notre galaxie, qui sont environ 10 puissance 8, 10 puissance 9 trous noirs stellaires dans notre galaxie, on voit que c'est très peu. Et en fait, ça vient probablement du fait que pour créer un système dynamiquement lié, parce que les deux astres, il y a peu de chances que les deux soient nés en même temps, étant donné leur âge de différence, etc., et l'explosion pour créer un trou noir, eh bien, il faut vraiment une conjonction de paramètres extrêmement peu probable pour que ces systèmes arrivent et, en plus, aient une configuration qui permette de rayonner comme ceci. Voilà. Alors, avant d'expliquer, de voir pourquoi est-ce que ces binaires X émettent comme ceci et quelles sont leurs caractéristiques, un très bref rappel de la gravité autour d'un trou noir et en particulier d'un trou noir en rotation. Donc ici, ça ne va pas être un cours de relativité. Comme vous l'a rappelé Françoise, un trou noir, en fait, c'est la gravité autour du trou noir est définie par seulement 2 paramètres, sa masse et son spin. Donc son spin, c'est son moment angulaire, que je note J ici, et que vous pouvez normaliser par rapport à des grandeurs, donc à sa masse, etc. Et c'est ce paramètre A, donc compris entre moins 1 et 1, qui détermine l'intensité de votre spin, ainsi que la taille de l'horizon des événements, c'est-à-dire c'est la surface au-delà de laquelle vous ne pouvez plus revenir. Donc autour du trou noir, en particulier des trous noirs en rotation, vous avez une zone un petit peu spéciale qui s'appelle l'ergosphère. C'est une zone où la gravité du trou noir change radicalement par rapport à la prédiction newtonienne, c'est-à-dire que l'espace-temps lui-même est en rotation, emmené par la masse du trou noir. Et dans cet espace, pour un observateur qui est à l'extérieur, la matière est forcée de tourner dans le même sens que le trou noir, parce que la vitesse d'échappement pour remonter, on va dire, dans l'autre sens, serait plus grande que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est un effet dit de lens steering. Et donc, c'est un effet qui vraiment modifie les trajectoires de la matière dans l'environnement du trou noir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la relativité générale, ça prédit la gravité de tout le trou noir en tout point, mais que si on compare à la gravité newtonienne, en fait, les vraies différences apparaissent relativement proches du trou noir. On va dire qu'au-delà de 10 rayons gravitationnels du trou noir, vous retrouvez avec une assez bonne approximation les lois de Newton. Et que donc, vraiment, si vous voulez voir un effet relativiste, il faut vraiment se concentrer près du trou noir. Or, il y a un effet quand même qui est important, et on l'a déjà évoqué ici. Les orbites circulaires autour des trous noirs sont stables jusqu'à une certaine proximité avec le trou noir, et ce rayon de limite, qu'on appelle donc l'ISCO pour Inner Stable Circular Orbit, RISCO, il dépend du spin du trou noir. Et si vous êtes en deçà de 6 rayons gravitationnels, un spin nul, vous n'aurez plus de trajectoire stable. Si vraiment vous avez un trou noir extrême de Kerr, vous pouvez vous approcher jusqu'à l'horizon des événements à RG. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les disques d'accrétion autour des trous noirs ont donc forcément un bord interne. Il y a une coupure assez franche qui va se produire puisque toute la matière en deçà tombe trop rapidement et ne peut plus se maintenir en équilibre. Donc ça, c'est vraiment la différence avec les autres disques d'accrétion que vous pouvez trouver en astrophysique, que ce soit les disques protoplanétaires ou autres, c'est que vous avez vraiment un trou, une limite dynamique au bord interne de ce trou noir. Alors à la suite de la découverte en particulier de Cygnus X1, vous avez différents auteurs qui ont participé à élaborer la théorie qui permet de décrire l'écoulement d'accrétion et le disque d'accrétion autour de lui, autour du trou noir. En particulier, Chakora et Zunayev, 1973, c'est un papier qui fait date, qui a proposé donc un modèle de disque d'accrétion. Donc ici, ça c'est dans le papier original, vous avez une coupe. Donc ici, vous avez le trou noir qui est quelque part ici, avec son axe de rotation. Et puis, vous avez le disque d'accrétion qui est comme ceci, en rotation, avec... Évidemment, pour un trou noir de Schwarzschild, vous avez ici la dernière orbite stable. Donc, dans cette vision, en gros, vous avez un disque qui est en rotation différentielle, c'est-à-dire que suivant le rayon, vous n'avez pas la même vitesse de rotation, et la vitesse de rotation est telle que vous permettez d'avoir un équilibre entre la gravité qui attire la matière et la force centrifuge qui contrebalance cette matière. Et donc, c'est ça qui définit ce qu'on appelle un profil keplérien de rotation. Alors évidemment, le gaz, qui est probablement magnétisé s'il est un peu chaud, a toutes les chances de provoquer de la turbulence, parce que c'est un gaz qui est vraiment en mouvement différentiel. Et donc vous avez une interaction d'anneau en anneau, vous avez de la turbulence qui permet de dissiper l'énergie cinétique et de transférer le moment angulaire vers l'extérieur du disque. Donc ça c'est ça qui permet l'accrétion, le transfert de moment angulaire qui permet de faire tomber la matière. Et quand on fait le bilan d'énergie de ce gaz, donc en rotation, eh bien ça permet de prédire en fait la température du gaz en fonction du rayon auquel vous êtes. Et mis dans ces unités, vous voyez qu'à la dernière orbite stable, par exemple, d'un trou noir de Schwarzschild, et pour un trou noir de masse environ... un trou noir de masse stellaire, on va dire l'ordre de grandeur, c'est 10 masses solaires, eh bien, vous voyez que la température du gaz, si je le traduis en électronvolts, c'est aux environs de quelques kiloélectronvolts. C'est une température, si vous prenez un corps noir, comme c'est probable donc dans ces disques assez denses, eh bien, vous obtenez une température qui culmine dans les rayons X. Et donc, ce qui explique pourquoi est-ce que les disques d'accrétion près des trous noirs, en particulier les trous noirs stellaires, émettent en X assez fort, voire même en X dur. Une autre conséquence de ce modèle, c'est tout simplement que, eh bien, même si les parties internes sont les plus petites, parce que le rayon est le plus petit, elles sont les plus chaudes, et donc leur puissance d'émission est forte. Si vous suivez la loi du corps noir, la loi de Stefan, par exemple, en sigma T4, eh bien, en fait, les régions internes sont les régions qui émettent le plus. Donc, si vous regardez, si vous dites que R0, c'est votre bord interne de disque, à l'intérieur de 10 fois ce rayon, vous avez près de 80% de l'émission du disque. Donc le bord interne du disque, c'est vraiment ce qui détermine la puissance du disque d'accrétion. Et de ce que vous voyez, ça vient vraiment des zones qui sont à proximité du trou noir central. Voilà, alors... Voilà un exemple. Alors, je m'excuse pour la qualité de la figure, parce que dans le papier originel, c'est comme ceci. Voici l'exemple vu en rayon X de l'intensité vue dans 6 objets, 6 binaires X à trous noirs, en fonction du temps. Donc, les unités de temps ici, ce sont des jours. Donc, vous voyez que c'est observé quand même sur des durées relativement longues, une année à même un petit peu plus. Et dans ces binaires X, ce qu'on voit, c'est que eh bien, l'intensité n'est pas du tout constante. Il y a des événements assez épisodiques, des bouffées de rayons X assez intenses, puis un retour au calme, comme dans certaines sources, etc. Donc il y a une zoologie de l'émission qui est assez complexe et dont on va parler un petit peu après. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que ces bouffées de rayons X, d'après les paramètres, sont sans doute liées en fait à l'état du disque d'accrétion qui émet une partie donc de cette émission, et que l'émission de plus en plus intense, donc ça c'est en unité de luminosité d'Eddington, en fait vous avez le disque d'accrétion qui est de plus en plus proche et qui tombe, qui est quasiment qui est à la dernière orbite stable. C'est là où vous avez l'émission la plus importante, et de temps en temps vous avez une retombée de l'énergie. Alors ça s'explique par le fait que dans les binaires X, qu'est-ce qui pourvoit à la matière du disque d'accrétion, c'est l'étoile. Et l'arrangement, du système stellaire fait que l'approvisionnement en gaz, suivant la périodicité, l'emplacement de l'objet, etc., n'est pas toujours optimal et n'est pas continu. Donc vous pouvez avoir un apport important de gaz, de plasma, qui d'un coup va se tarir étant à cause de la configuration du système ou de choc ou d'instabilité. Et donc c'est ça qui peut expliquer en fait ces bouffées de rayons X et puis ce calme apparent. Donc vous avez ces bouffées de rayons X, ça peuvent durer entre en gros 20 jours jusqu'à plusieurs mois en continu. Et puis elles sont aussi récurrentes. Si on regarde les sources, alors on observe en X en gros le ciel depuis une soixantaine d'années. Donc voilà, les récurrences, ça oscille entre un an jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire il y a des sources qu'on a vues une fois en 60 ans. Bon, on n'a pas toujours non plus des moyens d'observation en continu, donc il se peut qu'on ait raté des choses. Donc tout ça, gardez à l'esprit que c'est lié entre autres au flot d'accrétion autour du trou noir. Alors, ça émet en rayon X, c'est bien, mais comment est-ce que ça émet en rayon X? Quelles sont les contributions? Eh bien, ces binaires X, en gros, si vous regardez donc, le côté spectral, donc la répartition en énergie des sources, donc ici vous avez 5 sources, donc l'énergie va de 1 keV jusqu'à 100 keV, eh bien, dans ces objets-là, vous voyez la forme qui est assez complexe et qui est en gros composée de deux choses. Une composante thermique, donc qui est cette courbe un peu ondulée, donc en forme de cloche comme ceci, donc qui en diagramme log-log comme ceci est compatible avec une émission de corps noir multi-température, c'est-à-dire que si vous prenez chaque anneau de votre disque qui émet à une température donnée, vous superposez tous ces corps noirs, eh bien ça vous donne quelque chose comme ceci. Et ce qui est important, c'est que le sommet de ces courbes, vous voyez que ici ça va plafonner aux environs de 1 ou 2 keV, on retrouve dans ces états-là, eh bien on retrouve à peu près la température qu'on pourrait attendre d'un disque proche de la dernière orbite stable près du trou noir. Donc ça, c'est dans un état dit thermique, je vais y revenir un petit peu après. Et puis, on détecte aussi une autre composante, qui est une composante, cette fois-ci, qui ne vient pas directement du disque d'accrétion, mais qui est une composante non thermique, qui peut être modélisée par une loi de puissance. Donc ici, on la voit un petit peu. Et dans certains états, en fait, on voit beaucoup mieux cette composante non thermique par rapport à la composante thermique, ici. Donc ça, ce sont les deux principales composantes qu'on voit. On détecte aussi, de temps en temps, dans les systèmes, quand ce n'est pas noyé dans le continuum, on détecte aussi une raide fluorescence du fer, qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est très importante parce que son profil est très, très sensible aux effets de relativité. Et si on arrive à avoir un beau profil de la raie de fer, il peut devenir possible d'avoir un indice sur le spin du trou noir, de par la déformation observé de cet trait. On a aussi de temps en temps une composante de réflexion du disque, mais bon, c'est un petit peu plus anecdotique. Donc ça, c'était la répartition en énergie. Maintenant, si on regarde la répartition en fréquence, c'est-à-dire vous prenez l'intensité puis vous en faites la transformée de Fourier, eh bien, on l'a déjà évoqué, les spectres en fréquence, vous voyez qu'apparaissent des pics un peu caractéristiques, qu'on appelle donc des oscillations quasi-périodiques, c'est-à-dire c'est des fréquences surreprésentées. Il y a un phénomène donc qui oscille à cette fréquence-là. Et vous voyez que dans ces cas-là, donc la fréquence oscille entre 1 et 10 Hz dans ces sources-là. Alors, on a identifié dans les systèmes donc binaires à trou noir deux types de QPO. Les QPO dits basse fréquence, donc entre 0,1 et 30 Hz ici, et puis des QPO à plus haute fréquence dont l'amplitude est beaucoup plus faible et que vous distinguez à peine, vous en avez un ici en fait, un ici, ici en fait c'est complètement noyé dans le continuum. Donc ce sont des pics caractéristiques qui apparaissent, qui ont un caractère quand même transitoire parce qu'ils n'apparaissent pas tout le temps et ils n'apparaissent pas en même temps. Donc, suivant les états, vous avez un type de QPO ou d'autres, des fois les deux, qui apparaissent de façon plus ou moins fugace, mais qu'on arrive néanmoins à voir. Alors, pour continuer dans la description de ces objets, on a, dans la communauté astrophysique, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de classifier un petit peu les états de la source, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes-là. Alors, il y a une première approche pour classifier ces systèmes, c'est de regarder plutôt les paramètres spectraux, donc ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la répartition en énergie et en fréquence. Et en gros, donc ça, c'est une classification qui a été proposée par Rémillard et McClintock qui, on va dire, identifie trois états principaux. Un état dit thermique, donc l'état thermique, c'est celui-ci, où vous voyez une grosse dominance du corps noir, du disque, avec un petit peu de contribution non thermique. Un état dit hard, donc dur, dominé par les rayons X, donc c'est ici, vous voyez que l'émission principale vient de la loi de puissance, ici. Et puis un état encore plus haut en intensité, c'est l'état steep power law, donc une loi de puissance un peu inclinée ici, mais qui monte quand même au-delà de 100 keV en émission, donc c'est assez fort. Et puis donc dans ces systèmes, vous avez donc la présence donc de QPO, en particulier donc dans l'état hard. Ici, on peut arriver à voir ici un QPO basse fréquence. Et puis dans l'état ici. Steep power low, vous avez donc des QPO basse fréquence, mais également des QPO haute fréquence qui peuvent apparaître. Voilà, donc il y a beaucoup d'états intermédiaires qui font la transition entre ces états-là, mais qui ne sont pas encore bien caractérisés. La deuxième classification, c'est une approche plus observationnelle, plus liée, on va dire, aux résultats bruts, qui se base cette fois-ci sur une corrélation entre l'intensité vue en X, donc l'intensité globale sur toutes les énergies, en fonction de la dureté du rayonnement X. C'est-à-dire on fait le rapport entre les X dits durs à haute énergie sur les X mous à plus basse énergie. Et donc c'est un diagramme qui a été conçu en regardant la source, qui est vraiment un cas d'école, je vous la montrer après, qui est GX339. Et donc dans ce diagramme, donc intensité et dureté, vous avez le cheminement de la source qui fait son chemin et qui fait, on va dire, quelque chose de relativement cyclique, mais pas forcément à vitesse constante. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc c'est, suivant les auteurs, c'est un diagramme en forme de la lettre Q ou carrément en diagramme en tête de tortue, suivant les goûts et les couleurs. Donc ce HID, pour Hardness Intensity Diagram, donc, qui a été proposé par Fender, Belloni et Gallo, tend à vouloir donc expliquer et pouvoir localiser la source en fonction donc de ces paramètres. On retrouve bien évidemment une partie des états de la classification précédente. Donc par exemple, l'état hard se trouvera ici, l'état thermique ici, et puis un état, l'état très haut, le steep power low, que vous trouverez ici un petit peu au milieu. Et ça permet aussi de relier à la présence éventuelle de jets, parce que vous avez aussi de l'émission de jets qui peuvent être réalisées. Alors quand on compare ça aux vraies observations, donc voilà une binaire X, donc la GX339. Ici, vous avez des observations ici qui reproduisent donc le diagramme HID que je viens de vous montrer. Vous avez l'espèce de diagramme comme ceci, où on a superposé la première classification, et on voit qu'on a un bon recouvrement, on retrouve bien l'état hard, l'état thermique, les états intermédiaires, etc., etc. Donc ça marche relativement bien, il y a un bon accord sur ce type de source, donc qui est une binaire X, où le trou noir est entre 5 et 10 masses solaires, donc avec une étoile compagnon dont la masse est similaire à peu près à celle du Soleil. Alors par contre, évidemment, dès qu'on s'éloigne du cas d'école, donc voilà une réalité un peu plus contrastée, voilà un type de source aussi qui existe, donc c'est une autre binaire, XTE J1550, où le diagramme HID a nettement moins la forme attendue et où les états de transition en fait sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et donc, bon, on voit que ça fonctionne relativement bien, c'est-à-dire qu'on a l'état dur d'un côté, l'état thermique ici, mais on va dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour classifier, pour avoir une classification optimale de ce genre de source. Probablement que les deux approches en fait sont incomplètes et que des états supplémentaires sont à identifier ou à caractériser pour obtenir ce genre de classification. Alors, je vais me concentrer maintenant sur ces QPO, donc ces oscillations quasi-périodiques. Donc les QPO, la première catégorie de QPO qu'on observe dans les binaires X sont les QPO dites basse fréquence, et donc qui sont il y a une corrélation entre la fréquence des QPO qui varie. Les QPO basse fréquence ont une fréquence qui, au cours de l'observation, peut varier légèrement. Hein, dont, par exemple, ici, vous avez une observation de deux systèmes où vous voyez que la fréquence du QPO, suivant l'état, dans lequel vous êtes, donc l'état dur, l'état de transition et puis l'état steep power low. Vous voyez que la fréquence peut varier, donc ça peut aller de 1 Hz jusqu'à 10 Hz. Donc il y a un espèce de mouvement de l'entité qui génère ces oscillations au niveau dans le disque d'accrétion. Alors, néanmoins, ils sont stables, c'est-à-dire on les observe quand même pendant assez longtemps, ce qui suggère quand même que ce phénomène donc qui entraîne l'oscillation est lié à la présence du flot d'accrétion, qui est l'élément vraiment stable présent dans le système. Maintenant, si on compare ça à la fréquence de rotation, donc ça c'est l'inverse de la période, la fréquence de rotation de la matière dans le disque en fonction de la distance où vous êtes et du spin du trou noir et de la masse, vous voyez qu'à la dernière orbite stable, typiquement, on s'attend à avoir dans les binaires X, trous noirs, on s'attend à avoir des fréquences de l'ordre de 100 à 200 Hz, donc plutôt des QPO haute fréquence. Les QPO basse fréquence, étant donné leur valeur, se produisent sans doute plus loin dans le disque d'accrétion, et donc il y a nécessité de pouvoir expliquer ce qui se passe dans ce disque d'accrétion quand on les observe. Pour l'autre catégorie de QPO, les QPO haute fréquence, les QPO haute fréquence sont plus difficiles à détecter, donc parce qu'ils sont eux aussi, ils ont un caractère transitoire et surtout ils ont des amplitudes un peu plus faibles, donc c'est déjà un petit peu plus complexe de les détecter, mais néanmoins, avec une bonne statistique, on arrive à les avoir. Ils ne sont pas détectés dans toutes les binaires X, au contraire des QPO basse fréquence qui sont, on va dire, détectés dans la grande majorité des binaires X, donc c'est sans doute dû à leur nature et à l'amplitude un petit peu plus faible. Et surtout, les QPO haute fréquence, en fait, la fréquence du QPO haute fréquence varie peu. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette transition d'un facteur 1 à 10 en fréquence. Vous avez peut-être une très légère, mais vous observez des fréquences qui sont clairement identifiées dans les systèmes suivant les états. De plus, la valeur des QPO qu'on observe, 300 Hz, 276 Hz, etc., sont compatibles avec quelque chose qui se produit à la dernière orbite stable, proche du trou noir. Donc vraiment, les QPO haute fréquence, c'est un phénomène vraiment qui est un traceur de l'accrétion sur le trou noir. Et surtout, il y a une caractéristique que n'ont pas les autres QPO, et qu'on va évoquer ici, c'est que quand on détecte les QPO haute fréquence, il arrive qu'à différents temps donnés, on observe les QPO, mais à des fréquences qui changent relativement brutalement. Donc, sur une observation, par exemple, ici, vous observez un QPO à 450 Hz, puis ensuite, le QPO, vous l'observez dans une autre observation à 300 Hz. Et ce qui est intriguant, c'est que le rapport des fréquences qu'on observe dans les différents systèmes, en fait, sont des rapports de nombres entiers. Donc, en l'occurrence, des rapports les plus fréquemment observés quand on a des paires de QPO, c'est un rapport 3 pour 2. Donc, par exemple, 450 sur 300, vous retrouvez le rapport 3 pour 2. Ici aussi, par exemple, ici aussi, etc., etc. Donc, on a longtemps cru que voilà, c'était forcément une signature relativiste des QPO. C'est un effet de la gravité du trou noir qui génère ce rapport 3 pour 2. Or, en exploitant en fait les observations un peu plus récemment, on s'est rendu compte que les rapports de fréquence existaient pour d'autres valeurs que le 3 pour 2, mais toujours en rapport entier. Donc, par exemple, ici, vous avez dans cet article-là, on a revisité les données sur cet objet et le rapport de fréquence qui est observé n'est pas un 3 pour 2, mais 4 pour 3, etc. Donc, peut-être qu'en améliorant encore les détecteurs et la réduction des données, on va peut-être identifier d'autres rapports de nombres et peut-être toujours des nombres entiers. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un aspect qui est vraiment assez particulier et qu'on cherche à expliquer dans les modèles qui essaient d'expliquer la présence de ces QPO. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on détecte des QPO haute fréquence, on détecte aussi en même temps des QPO basse fréquence. Donc si on veut modéliser un petit peu le flot d'accrétion et des modèles qui expliquent ça, eh bien, il faut pouvoir expliquer la présence des deux types de QPO en même temps. Donc, ce qui est déjà un petit peu plus difficile. Des QPO, Françoise l'a évoqué tout à l'heure, ne sont pas observés que autour des trous noirs stellaires, donc des binaires X. Évidemment, on les a d'abord observés ici parce que leur fréquence de 100 Hz nécessite peu de temps de pause en rayon X. Un rayon X, évidemment, étant donné la nature des rayons X, vous ne pouvez les observer que sur des satellites vous ne pouvez pas les observer avec des télescopes puisque les rayons X ne suivent pas les lois de l'optique géométrique. Donc vous avez des détecteurs et les détecteurs ont un temps limité d'observation pendant leur campagne. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord observé ces QPO, mais évidemment, des QPO, on en observe maintenant aussi autour des trous noirs supermassifs. Alors, je vous cite deux exemples. Il y a un des exemples qui a déjà été cité par Françoise, mais par exemple, le premier exemple ici, en fait, c'est dans une galaxie de Seyfert. En regardant le flux en X de cette galaxie, eh bien, les auteurs, donc Gerlinski et Tal, se sont rendus compte, en faisant la transformée de Fourier, donc de l'intensité, de la présence d'un fort QPO, d'une fréquence dominante du processus, qui cette fois-ci est proche, de 10 puissance moins 4 Hz, donc on est en dessous du millihertz. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus basse fréquence que ce qu'on observe dans les binaires X. Bien évidemment, ici, on n'est pas autour d'un trou noir stellaire, on est autour d'un trou noir supermassif. Et si vous prenez la fonction que je vous ai montrée précédemment, ici, qui vous donne la fréquence d'oscillation de la matière, eh bien, quand on reporte la fréquence du fondamental, donc de ces QPO, en fonction des objets, vous voyez qu'ils suivent une loi, et qui est une loi en 1 sur la masse du trou noir. Alors ça, c'est vrai si les trous noirs ont des spins qui sont pas trop loin. Et si vous extrapolez ça, donc ça va de 5 jusqu'à 20 masses solaires, et vous extrapolez ça jusqu'à la masse pensée de cette galaxie, eh bien vous tombez sur une valeur qui est proche donc, de 3, 10 puissance moins 4 Hz. Donc en gros, ce QPO serait le même phénomène, donc c'est assimilable à un QPO haute fréquence, mais pour un trou noir supermassif. Donc là aussi, le fait de trouver cette signature en oscillation proche du trou noir supermassif, nous laisse à penser que vraiment c'est un diagnostic de la gravité du trou noir plus que du système environnant du disque d'accrétion lui-même. C'est l'action du trou noir sur le flot d'accrétion qui engendre ces phénomènes. Donc ça, je vais passer très vite parce que vous venez de le voir dans le cours précédent. Donc dans Assassin 14 Eli, ce QPO, effectivement, est plutôt lié à un QPO haute fréquence aussi pour une masse donc proche de 10 puissance 6 masse solaire, et on arrive aussi dans les modèles à contraindre que si c'est bien un QPO engendré par le flot d'accrétion, vous devez avoir un spin supérieur à 0,7. Voilà, donc j'ai fini, on va dire, ma brève revue un peu observationnelle des binaires X. Maintenant, quand on essaye de comprendre et de modéliser les QPO autour des trous noirs, donc, il y a un consensus, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un consensus dans la communauté sur le fait que les QPO, donc basse fréquence et haute fréquence, proviennent de phénomènes qui se produisent dans le disque d'accrétion, avec éventuellement un lien pour la couronne qui englobe le disque d'accrétion, une couronne plus diluée. Il y a beaucoup de modèles qui ont été faits, je ne vais pas ici faire une revue de tous les modèles, parce qu'il y en a une liste sans fin, quasiment. Beaucoup de modèles se sont concentrés pour expliquer un aspect des QPO, soit leur variabilité, la valeur, etc., suivant différents ingrédients. Alors, il a été évoqué la disco-sismologie, vous avez des secousses dans le disque d'accrétion qui créent cette variabilité, la propagation de choc, la propagation radiale de choc dans le disque qui remonterait, qui reviendrait, qui rebondirait comme une vague sur un mur ou les vagues dans la piscine, par exemple. Vous avez aussi des instabilités entre disque et couronne, etc. Mais toutes ces approches sont faites de façon relativement limitée, avec des approches semi-analytiques qui permettent d'essayer de reproduire des phénomènes. Maintenant, la modélisation de ces phénomènes et de ces systèmes de façon globale se fait, on va dire maintenant, sous un aspect plus numérique qui permet d'envisager des systèmes et des configurations plus complexes que ne le permettent les systèmes semi-analytiques. Et donc, pour modéliser ça, bien évidemment, on a besoin d'utiliser des techniques de calcul qui ne sont plus les techniques de calcul simples que vous pouvez faire sur votre ordinateur. On a besoin de machines et surtout de techniques de haute performance. C'est là où la recherche, en fait, rejoint le calcul numérique haute performance que vous pouvez trouver dans d'autres domaines de recherche plus industriels, etc. Donc, il faut incorporer dans ces simulations numériques, bien évidemment, l'effet du trou noir en relativité générale sur le plasma. Mais il y a un autre effet qui souvent est un petit peu écarté, c'est que votre plasma, il va être soumis à la gravité du trou noir, il va rayonner, mais la lumière elle-même qui est rayonnée va être soumise à la gravité du trou noir, et ça on le sait depuis les observations d'Eddington en 1919, qui ont confirmé une prédiction de la relativité générale sur le déplacement de l'image des étoiles lors d'une éclipse de soleil. Donc il y a ces deux aspects qui vont devoir être pris en compte. Alors je vais rapidement vous présenter en gros les deux modèles, les deux approches qui actuellement sont sujettes à des simulations et à des tentatives d'explication. Donc il y a le premier modèle dont je vais parler, ce sont les disques inclinés par rapport au trou noir qui permettraient d'expliquer les QPO basse fréquence en particulier. Et puis le deuxième modèle sur lequel je vais détailler un petit peu plus, c'est l'instabilité par onde de Rossby, donc à la dernière orbite stable des trous noirs, et l'implication qu'on peut avoir de la présence de ces mécanismes. Bref, comme je l'ai dit, ces modèles font intervenir une modélisation de magnéto-hydrodynamique en relativité générale, donc je ne vais pas vous infliger les équations de la MHD en relativité générale, mais sachez néanmoins que vous devez prendre en compte donc, ces grandeurs, la description complète de la relativité dans les équations, et ce qui nécessite donc l'emploi. Maintenant, toutes les simulations, on va dire, à l'état de l'art dans ce domaine-là se font uniquement maintenant sur supercalculateurs nationaux, etc., font l'objet de millions d'heures de calculs pour arriver, par exemple, à modéliser l'interaction, ici c'est juste un exemple, d'un tore de matière avec un trou noir et la création de jets de matière. Donc ça nécessite quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'heures de calculs sur quelques milliers de processeurs pour arriver à ce genre de choses-là. Alors le premier modèle dont je vais vous parler, c'est le modèle des disques inclinés, disques inclinés par rapport à l'axe de rotation du trou noir. Parce que dans l'image un petit peu d'épinal, je dirais, du disque d'accrétion, on suppose instinctivement que le disque d'accrétion est dans le plan perpendiculaire au trou noir. Or, dans une configuration en particulier pour les binaires X, on va dire l'agencement entre l'étoile et l'axe du trou noir n'est pas forcément toujours bien aligné, du moins au début. Donc, vous pouvez avoir de la matière de l'étoile qui tombe vers le trou noir, mais pas dans le plan équatorial du trou noir, mais dans un axe un peu incliné. Et quelle est la réaction de la gravité du trou noir sur le disque? Est-ce que le disque va résister? Donc, c'est l'objet de ces simulations à grande échelle où vous prenez un disque d'accrétion, initialement, vous le penchez d'un certain angle. Alors là, dans les simulations que je vais vous présenter, le disque est penché de 60 degrés par rapport au plan équatorial. Et vous regardez ce qui se passe. Est-ce que le disque résiste? Et la réponse est non, le disque ne résiste pas. Pourquoi? Parce que dans le voisinage très proche du trou noir, donc typiquement jusqu'à 10 rayons de Schwarzschild, vous avez un phénomène qui s'appelle le phénomène de réalignement de Bardeen-Peterson, qui est dû à la présence, en gros, l'action de l'ergosphère et de son voisinage immédiat, où l'entraînement de l'espace-temps, quelque part, force la matière à se réaligner dans le plan équatorial du trou noir. Les parties externes, elles, étant donné que cet effet décroît très rapidement avec la distance, les parties externes ne sont pas soumises à cet effet, c'est un effet extrêmement faible, ce qui fait que ça a tendance, en fait, à disloquer le disque d'accrétion, plusieurs disques orientés de façon un petit peu aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais on va dire des coordonnées. Donc ici, c'est une coupe, la simulation est 3D. Vous avez une coupe dans le plan, dans un plan comme ça, où vous avez le trou noir au centre, et vous voyez que, donc initialement, le disque était incliné comme ceci, et vous voyez que la partie centrale du disque est complètement réalignée pour, à la fin, complètement être disloquée des parties externes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'accrétion violente, c'est-à-dire vous détruisez, vous coupez en morceaux votre disque d'accrétion. Et l'idée, c'est que vu que la précession de ces disques n'est pas dans le même axe, vous pouvez avoir des effets d'occultation et donc des effets de fluctuation du rayonnement. Alors, dans ces simulations, qui sont déjà magnifiques, il n'y a pas encore de prise en compte des termes de l'émission radiative, donc il n'y a pas de diagnostic encore véritable, qu'est-ce qu'on peut voir réellement. Donc ça, c'est juste une autre vue, cette fois-ci 3D du disque une fois disloqué. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ces disques, malgré la dislocation et l'événement un peu brutal, le disque continue à émettre en fait des jets de matière qui eux-mêmes, étant donné la précession du disque interne, vont entrer dans un mouvement de précession. Donc c'est un mécanisme qui est aussi important quand on dans d'autres système. Vous pouvez avoir de la précession, comme par exemple des galaxies que vous voyez avec le jet qui vous arrive dessus, donc de type blazar, où vous pouvez avoir une certaine précession qui pourrait expliquer de la variabilité ou contribuer à la variabilité de ces systèmes. Donc c'est quelque chose qui peut même dépasser le cadre des binaires X. Alors pour voir mieux, j'ai récupéré donc auprès de l'auteur principal, Mathieu Liska, une vidéo de la simulation. Alors allons-y, j'espère que ça démarre. Voilà, donc vous avez le disque qui initialement est penché, et vous voyez que très rapidement, la partie interne du disque donc, est disloquée. Ça c'est juste la coupe ici au niveau du plan 0,0. Et vous voyez que dans le temps, vous voyez la partie externe du disque va rentrer doucement en précession, commence à tourner doucement, avec une partie centrale du disque qui, elle, est en précession un peu plus rapide, ici. Et donc, la différence entre ces deux parties de disque, les auteurs pensent que ceci peut expliquer, en particulier, les QPO basse fréquence. Pourquoi ? Parce que la dislocation intervient non pas à la dernière orbite stable, mais un peu plus loin, vers 10-15 rayons gravitationnels, qui est plutôt la fréquence qu'on trouve pour les QPO basse fréquence. Donc ça, c'est une piste qui peut être prometteuse, pas que pour les binaires X, mais qui permet d'expliquer un petit peu la variabilité qu'on pourrait avoir dans ce genre de système. Donc la vidéo est un peu longue, mais voilà. En gros, alors, je vous donne la fin, hein, je vous spoil le film. À la fin, tout se réaligne, y compris les parties externes, si vous attendez suffisamment longtemps. En fait, l'action du trou noir sur les parties externes est assez lente. Alors, partie externe, hein, on s'entend, on reste à 60 rayons gravitationnels, donc ce n'est pas encore là, un disque extrêmement étendu. Mais néanmoins, à la fin, tout se finit par se réaligner. Et ce qui pose la question, c'est comment réinitialiser, parce que vous avez des bouffées de rayons X, il va falloir expliquer un mécanisme pour pouvoir réinitialiser, relancer la machine là. Mais néanmoins, donc ce sont des premières étapes qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Je vais parler maintenant d'un deuxième mécanisme qui va surtout cette fois-ci s'intéresser donc au QPO plutôt haute fréquence, pardon. Donc c'est un scénario qui prédit l'existence d'une instabilité au sein même du disque, une instabilité innée des disques d'accrétion près des trous noirs. Alors, innée, elle fait appel à une instabilité qu'on appelle l'instabilité par onde de Rossby. Alors, en anglais, RWI, l'acronyme, Rossby Wave Instability, c'est une instabilité que vous connaissez tous, si vous regardez la météo, puisque c'est une instabilité qui se produit dans tous les fluides, qu'ils soient hydrodynamiques ou magnétisés, et en rotation différentielle. Rotation différentielle, c'est-à-dire qu'une vitesse de rotation qui n'est pas la même en fonction du rayon. Alors, ça arrive, bien évidemment, dans les disques d'accrétion, vous avez une vraie rotation différentielle, mais ça arrive aussi dans les atmosphères planétaires, comme sur Terre, où vous avez, en fait, en fonction de la latitude, vous n'avez pas la même vitesse de rotation étant donné la rotation de la Terre. Et donc, c'est ce qui est à l'origine de la création des cyclones que vous pouvez voir. Ça crée des tourbillons, les tourbillons de Rossby, dans ces phénomènes-là. C'est aussi ce qui est à l'origine de la grande tache rouge de Jupiter. Donc, c'est un phénomène auto-entretenu, cette instabilité de Rossby. C'est ça qui peut créer ces anneaux, parce que Jupiter ayant un rayon significatif, vous avez vraiment une rotation différentielle assez marquée au niveau de l'atmosphère, ici. Et puis, c'est aussi ce qui peut contribuer à la présence des bras spiraux dans les galaxies, puisque si vous considérez que votre galaxie, c'est un fluide de gaz et d'étoiles, eh bien, vous pouvez avoir, donc, ça peut contribuer à la présence de ces choses-là. Alors, si on en revient au disque d'accrétion, pourquoi est-ce que dans le disque d'accrétion près des trous noirs, ça va se déclencher ? Alors, un peu de mathématiques, on va s'arrêter là. Le critère pour que l'instabilité de Rossby se déclenche, c'est tout simplement qu'une grandeur qu'on appelle la vortensité, donc c'est un mélange de vortex et de densité, qui est en gros ce qu'on appelle le rotationnel de la vitesse, divisé par la densité, la masse de surface, densité de surface du disque. Si cette grandeur-là connaît un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, eh bien vous pouvez déclencher l'instabilité de Rossby. Or, qu'est-ce qu'il faut pour avoir systématiquement ce critère vérifié ? Il vous suffit d'avoir un bord interne de disque. Donc, ce critère est toujours vérifié près de la dernière orbite stable ou du bord interne du disque d'accrétion près du trou noir. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez déclencher cette instabilité du moment où vous rentrez, où votre matière atteint, en fait, s'approche de cette dernière orbite stable. Et donc, la configuration des courbes de vitesse et le fait que la densité chute brutalement, vous vérifiez ça automatiquement. Donc on a modélisé ça dans des simulations en relativité générale, et effectivement, dans les disques qui présentent, donc ici c'est un cas un petit peu d'école, là vous avez l'horizon du trou noir, l'ergosphère, et vous voyez que la matière proche de la dernière orbite stable va déclencher cette instabilité qui va créer des surdensités qui tournent. Vous avez des tourbillons. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'instabilité de Rossby, quand elle sort, elle fait un nombre entier de tourbillons, de 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Le nombre, le mode dominant, donc ce sont des modes dits azimutaux, qui sont repérés par un entier M, peuvent aller de 1 jusqu'à l'infini, théoriquement. Mais de savoir quel mode est dominant, ça, par contre, ça ne dépend que des conditions locales de votre disque. Il n'est pas possible de le savoir à l'arrivée, parce que c'est un phénomène hautement non linéaire, et donc ce n'est pas possible de le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs tourbillons qui tournent, vous pouvez, et qui finissent par fusionner, comme ça arrive dans la simulation, eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez 4 ou 3 tourbillons principaux, une fréquence de 3 fois, puisque vous voyez 3 tourbillons qui oscillent, donc 3 fois la fréquence ici du fondamental, qui vont fusionner pour ensuite passer à 2, éventuellement à 1, et disparaître. Donc on retrouve l'intérêt pour expliquer la présence de paires, voire de plus de QPO. Alors pour pouvoir, avant de pouvoir se dire, voilà, ceci va créer des QPO, il faut d'abord regarder ce que l'émission radiative de ces simulations va donner. Et pour ça, eh bien, il y a une étape supplémentaire en relativité générale, c'est que vous devez prendre en compte l'effet de la gravité du trou noir sur la lumière produite par le disque d'accrétion, en particulier si celui-ci est penché. Parce que la lumière qui provient de la partie qui est derrière le trou noir du disque d'accrétion doit passer au voisinage du trou noir et va donc avoir une trajectoire qui va être défléchie et voire même retardée, comme ça peut être montré. Hein, si vous avez une inclinaison maximale, on peut montrer en fait que un photon qui est émis à un instant t pour un observateur à l'infini ici et un autre photon ici, au même moment ici, en fait, va arriver sur l'observateur avec presque une demi-période d'écart en termes de disco. Donc c'est, la relativité, ça va vous modifier, donc ça c'est la simulation que je vous ai montrée juste avant, en prenant un code de tracé de rayon, donc vous obtenez quelque chose comme ça, alors je pense que ça a démarré, vous allez voir, donc vous avez ce disque qui est complètement déformé par la présence du trou noir, vous voyez la partie externe qui est complètement déformé par l'horizon, vous avez les anneaux d'Einstein qui apparaissent ici, là la partie avant, et vous voyez que ça change et que ça fait fluctuer, ça amplifie en fait, ça fait un effet d'amplification un petit peu relativiste de la variabilité de ce genre de courbe. Voilà, donc la même simulation, cette fois-ci pris avec un petit peu plus de grandeur, suivant l'inclinaison, quand vous prenez toute l'émission que vous recevez de la part de ce système et que vous en faites une courbe, vous obtenez donc une courbe qui va osciller à cause de la présence de ces tourbillons qui sont proches de la dernière orbite stable, donc qui font fluctuer la partie la plus émettante du disque d'accrétion. Et donc vous obtenez une courbe en fonction du temps qui est comme ceci. Et si vous vous intéressez donc à la transformée de Fourier de cette courbe-là, eh bien, vous voyez que vous faites apparaître des paires d'oscillations quasi-périodiques et forcément, étant donné que c'est relié au nombre de tourbillons, que ce sont des nombres entiers, vous avez des nombres entiers pour les fréquences, les rapports de fréquences sont en nombres entiers. Donc ici, par exemple, c'est un rapport 3,5, mais suivant les simulations que vous faites, vous pouvez sortir à peu près n'importe quel, n'importe quel rapport de fréquences. Donc ici, vous avez, par exemple, suivant les conditions initiales de la simulation, un rapport 4 tiers ou un rapport 3,5, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui pousse ce modèle comme valide pour expliquer cet aspect-là, parce qu'il y a peu de modèles qui peuvent l'expliquer, surtout le fait de l'expliquer pas que le rapport 3,5, parce que vous pouvez avoir d'autres modèles, comme l'effet de précession en lens steering, qui pourraient décaler les fréquences ici, mais le fait d'avoir un rapport en 4 tiers, ça, c'est pas prédit par la relativité générale. Alors un dernier aspect qui était intéressant, c'est que les simulations, donc ça essaye d'interpréter les observations, mais de temps en temps, les simulations prédisent des choses que les observations peuvent a posteriori essayer de vérifier. Donc ici, alors c'est un diagramme pour montrer l'évolution de l'instabilité de Rossby près d'une dernière orbite stable. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est le rayon en fonction du temps. Donc ici, c'est un angle donné, une coupe dans le disque d'accrétion. Vous regardez en fonction du temps comment est-ce que vos bras spiraux, en fait, les tourbillons se développent ici. Ça, c'est pour une instabilité près de la dernière orbite stable d'un trou noir de Schwarzschild, donc assez loin. Vous êtes ici, le démarrage est vers donc deux fois la dernière orbite stable. Et ici, c'est près d'un trou noir extrême, plus proche de Kerr. Et vous voyez que ça ressemble à une différence près. C'est ici. Ici, vous voyez que près du trou noir de Schwarzschild, vous avez la propagation dans les deux sens des perturbations. Ici, près d'un trou noir de Schwarzschild, vous avez une propagation qui est ralentie, ici. C'est-à-dire que les ondes se dissipent moins et restent un petit peu plus groupées vers le centre de l'instabilité, qui devient, à ce titre-là, plus forte. Eh bien, ça, c'est un effet relativiste, tout simplement parce que ici, on se rapproche tellement de l'horizon du trou noir que vous avez un effet de ralentissement du temps. Plus vous vous rapprochez de l'horizon d'un trou noir, plus le temps local s'écoule lentement. C'est-à-dire que pour un observateur à l'infini, vous voyez en fait la matière qui a tendance à ralentir. Alors que dans son référentiel à elle, elle a la même vitesse. Il y a juste que le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et donc, pour nous, observateurs, en fait, l'instabilité se ralentit et se reste concentrée sur les tourbillons. Donc, ce qu'on peut prédire, c'est que cet effet relativiste de dilatation du temps, en fait, va donner une instabilité, si vous êtes proche d'un trou noir à haut spin, donc comme c'est le cas ici, doit donner des niveaux de variabilité plus importants. Relativement par rapport à des trous noirs non en rotation ou à rotation faible. Donc ça, c'est un résumé de toutes les simulations, de tout ce qu'on voit. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'effet de saturation, on le voit, nous, dans les simulations. Vous avez une courbe donc, qui est doucement croissante, et puis dès que vous en rentrez dans une zone un petit peu critique, donc 4 rayons gravitationnels, vous voyez une accélération, une montée du niveau de saturation, ici. Et puis le temps pour atteindre la saturation qui suit la loi, donc le alpha, c'est une fonction en relativité générale qui s'appelle la fonction Laps, qui vous décrit en fait le rapport du temps entre le temps d'un observateur local et l'observateur à l'infini. Donc cet effet relativiste, les simulations en fait prédisent que si la RWI est effectivement responsable des QPO haute fréquence ici, leur variabilité, on va dire que ce qu'on appelle la RMS, c'est le root mean square, c'est l'écart type, on va dire, par rapport au flux de base, eh bien, doit croître avec le spin. Et donc ça a donné l'idée à des observateurs de regarder ça. Alors, il y a peu de systèmes dont on connaît la masse, dont on connaît le spin, et dont on a une lecture claire des niveaux de variabilité. Néanmoins, il y en a quand même 6 systèmes qui ont été identifiés avec le spin. Et donc, ces systèmes-là, ils sont représentés alors, avec des barres d'erreur assez monumentales, ici, parce qu'on est quand même sur des choses assez fines, assez faibles. Mais ici, vous voyez qu'il y a une tendance, suivant le spin du trou noir, vous voyez quand même que les observations, donc, qui sont dans les boîtes, vous voyez une tendance à une augmentation, effectivement, de la variabilité relative du flux par rapport au spin. Et donc, si vous reportez en fait les losanges orange, ce que les simulations prédisent, vous voyez que effectivement, il y a un accord relativement bon avec cette tendance d'augmentation de la variabilité relative des QPO par ce mécanisme. Donc, voilà, ça a permis qu'on se rende compte qu'effectivement, l'amplitude des QPO est aussi liée, et pas que à la position, mais aussi liée donc au spin des trous noirs. Voilà. Donc, dans cet exposé, dans ce séminaire, je vous ai présenté donc des systèmes, alors de façon un peu succincte, bien évidemment, mais néanmoins, l'émission X et gamma, donc des systèmes qui abritent les trous noirs, permettent vraiment d'étudier ce qui se passe au contact dans l'environnement très proche des trous noirs, dans ce régime de gravité qui est vraiment le régime relativiste. Et quelque part, cette accrétion et la compréhension de cette accrétion, c'est un test plus ou moins indirect de la relativité générale, qui en a déjà passé beaucoup avec succès, des tests. Mais néanmoins, ce phénomène, en particulier les QPO, sont vraiment des traceurs qui sont très intéressants et qui vont être appelés à être étudiés, pas que dans les binaires X. Maintenant, on commence à avoir presque plus d'identification de QPO dans les trous noirs supermassifs que dans les binaires X. Donc on a beaucoup progressé dans leur compréhension, mais il reste évidemment énormément de chemin et de travail à faire. Et surtout, en particulier pour les binaires X, il y a un petit coup d'arrêt qui a été posé parce qu'on a besoin d'instruments bien spécifiques pour observer les binaires X. Elles émettent dans des X assez durs. Et depuis 2006-2008, il n'y a plus d'instruments qui permet d'observer dans les bonnes gammes d'énergie tout le comportement de ces binaires. C'est pour ça que ça a mis un petit peu un temps d'arrêt. Et on attend, donc NICER, c'est un nouveau satellite, a été lancé très récemment, donc devra apporter de nouveaux résultats qui vont permettre de complémenter ça. Et puis, sous d'autres aspects, il y a d'autres satellites, donc plutôt à l'orée 2030, c'est le satellite AX Athena, qui devrait aussi pouvoir permettre de complémenter un petit peu cette approche. Donc, la création sur ces systèmes-là, c'est important parce que, évidemment, la façon dont la matière interagit avec le trou noir, on a besoin de comprendre ce que c'est, en particulier pour d'autres systèmes binaires de trous noirs, mais cette fois-ci de trous noirs au pluriel, quand vous avez deux trous noirs en rotation. On sait maintenant, par la détection des ondes gravitationnelles, que ces systèmes existent. Néanmoins, dans l'état actuel, on ne les détecte que quand ils fusionnent. Par l'émission des ondes gravitationnelles. Donc, permettre et comprendre comment la matière, le gaz, permet d'être accrété par les trous noirs, va nous permettre de comprendre comment est-ce que la matière peut être accrétée par une binaire de trous noirs avant la fusion. Et on a l'espoir de pouvoir identifier avant la fusion ces systèmes au travers de leur émission électromagnétique par ces caractéristiques d'accrétion de type QPO, etc., etc. Et puis, un dernier mot, alors cette fois-ci qui est encore plus... on va dire enthousiasmant, c'est que ces environnements proches de trous noirs, ce sont de potentiels émetteurs d'astroparticules. C'est-à-dire qu'au-delà de la fenêtre électromagnétique sur l'univers, vous avez d'autres fenêtres, à travers des neutrinos de très haute énergie, des rayons cosmiques et bien évidemment maintenant des ondes gravitationnelles. On peut observer ces systèmes-là, on peut espérer les observer sous différents aspects. Et donc il y a vraiment beaucoup de physique multimessager qui va pouvoir être faite dans les décennies à venir sur ces systèmes-là, parce que vous pouvez avoir la production de tous ces messagers au même endroit. Et donc on va essayer de comprendre et de contraindre l'astrophysique qui s'y déroule. Je vous remercie.